Oui, je sais, mais je vous ai
dit. Une des raisons qui nous met un peu mal à l'aise dans le problème de la tchouva, c'est que d'expérience, on sait que on a fait tchouva, certaines fois sur toutes les composantes de ce qu'on pensait, etc. Et malgré ça, ça n'a pas tenu la distance, en fait. Ça n'a pas marché. Il y a un Meiri. Le Meiri, c'est un maître du sud de la France, du Moyen-Âge. Il a écrit un ouvrage sur la tchouva. Et il dit les choses de la manière suivante. Il dit que, dans la définition de la tchouva, bien sûr, il est absolument impératif que on évalue ses conduites, ses pensées, et il ne suffit pas d'abandonner la voie fautive, en quelque sorte. Mais il faut se débarrasser, comme il dit, des midotes qui nous ont amenés à cela. Le pasouk dit, Yazov racha darko, le racha il doit abandonner son chemin, veish aven, et l'homme fautif en fait, marche votav, il doit abandonner ses pensées. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas du tout d'abandonner la mauvaise pratique, si on peut parler comme ça. Et seulement à ce moment-là, on pourra dire viyashuv. À ce moment-là, il fait vraiment tshuva. Donc, un baal tshuva, une baala tshuva, c'est quelqu'un qui va examiner ses pensées, qui va examiner ses opinions. Et pour éliminer celles qui sont mauvaises, en fait. Ces pensées, ces opinions qui le mènent à, dans certains cas, à la vera elle-même. Par exemple, qui mène à la colère, la haine, la jalousie, la compétition, etc., la recherche de l'argent, la recherche du kavod, le pouvoir, etc. Toutes ces mauvaises déotes, toutes ces mauvaises opinions, toutes ces mauvaises façons de penser, en réalité, mènent à de grandes avérotes. Et on ne peut pas faire tchouva sur les avérotes si ces midotes-là ne sont pas réparées, si elles ne sont pas éliminées ou si on n'a pas réussi à les maîtriser, en tout cas. Et il dit, c'est ça que le verset dit, qu'il faut aussi abandonner non seulement ses voies, c'est-à-dire ce qu'on fait, la pratique, il faut aussi abandonner les pensées, les marches à vote. Et il faut changer cela, en fait. Dans la suite, il écrit sur ce verset de Yaazov Racha Darko Vishaven Mashvotav, il dit que il y a une espèce de poison, une source, en fait, qui génère les averot, qui sont la kina, la chemda, la gaava, etc. Et donc, Chazal dit, la kina ve'atava ve'akavod motzim et ha'adam min ha'olam. On dit dans Pirkei Avot que la jalousie, la recherche des honneurs, les envies, en fait, sortent, littéralement, sortent l'homme du monde. Et il dit, Val, Derech Haemet, Hem Shoresh, le Rova Avonot. Mais il dit, en fait, elles sont la source de la majorité des fautes. Donc, on voit que le Meiri nous dit ici très clairement que la raison pour laquelle, effectivement, la tshuva ne réussit pas, c'est-à-dire que on a réussi pendant un certain moment à croire qu'on avait fait vraiment tshuva, mais ça tient pas, parce que l'essentiel de la tshuva manque ici. On n'a pas traité les racines, en quelque sorte. Il y a un sefer qui s'appelle Sha'arei Kedusha de Haim Vital. Il dit Hamida, la mesure, donc les midot, elles sont Avhatuma. Avhatuma, c'est pratiquement le plus haut degré de l'impureté. Il veut dire ici que c'est vraiment la chose. Les mauvaises choses par excellence, qui hi mevia le sina qui n'avait, ou mevia l'idée gezel, shvoat sheker, etc. Tzicha, il met tout là dans la liste. Il dit parce que c'est ça qui, on a dit dans Pirkei Avot que la sina, la kina, etc. Mais il y a quelque chose de plus haut, en fait. Quelque chose qui génère la haine, la jalousie, etc. Et ce sont c'est une certaine mida. Alors lui, il considère que la mida par excellence qui mène à tout cela, c'est ce qu'il appelle chemda. Chemda. Chemda, chomed, c'est celui qui envie quelque chose qui ne lui appartient pas. L'interdit de Chemda, il est difficile parce que il existe déjà, on a déjà transgressé l'interdit avant d'avoir fait quoi que ce soit. Il s'agit pas de faire main basse sur l'objet de l'autre, c'est même pas du Hamas où on prend l'objet quitte à lui donner à son propriétaire le double de la valeur. C'est Hamas. Ça c'est interdit. Mais même si je ne fais pas ça, simplement de laisser grandir en soi l'envie de quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est, d'après Rabbi Vital, avatuma. C'est le summum, c'est la cause des autres mauvaises midot. En fait. Pourquoi? Parce que vous voyez bien ce que ça veut dire d'avoir envie de quelque chose qui est à l'autre. C'est considérer que la Hashgacha, la Providence, a donné quelque chose à l'autre, et ne m'a pas donné à moi, et c'est pas juste. Je voudrais réparer la chose, et pour réparer la chose, je voudrais avoir moi la chose. C'est évidemment un manque de bitachon. Et au contraire, dit-il, le bitachon, c'est la mesure, la qualité par excellence qui va permettre justement de surmonter tout cela. J'ai dit plusieurs fois que nous disons cela dans les brachot du matin. Quand on dit dans la bracha du matin que « chez Asalikot Tzorki » Hachem a fait pour moi tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. On en a déjà parlé une fois. Il y a un des grands élèves de Rav Volbé qui raconte que Rav Volbé lui a fait la guerre parce que lui-même, il dit qu'il est quelqu'un d'extrêmement curieux. Alors si sur la table, il y avait... On avait un midrash, il voit quelqu'un, il a une paire de tefillines, avec une boîte de tefillines, c'est rien du tout, qui n'est pas comme tous les autres. Quoi. Elle est blanche au lieu d'être... La plupart sont noires. Alors, il la prend pour regarder. À part ça, il a un Yetzara, il adore les appareils photo. Donc s'il voyait un appareil photo sur la table, il le regarde, il ne va pas le prendre. Mais il est très très curieux et Rav Volbe lui a fait la guerre. Il lui a dit, mais de quel droit tu touches quelque chose qui n'est pas à toi? Au point qu'aujourd'hui, il ne peut pas toucher quelque chose qui est... La guerre a réussi. Mais il dit, c'est vrai que, bien sûr je ne veux pas faire main basse sur la chose, Mais de quel droit tu la touches? C'est pas à toi. Tu peux demander à quelqu'un, ça m'intéresserait de voir comment c'est, éventuellement. Mais de soi-même, c'est vrai qu'on se le permet. Devant la personne, je peux partir avec. Mais ça, en fait, c'est interdit. Et ça génère aussi cette idée de... Vous allez chez quelqu'un, vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous voudriez l'avoir. Il y a un seul domaine dans lequel ils ont une forme de jalousie et profitable. On dit que « kinat sofrim tarbe chokma ». La jalousie, disons, dans le domaine de l'étude, elle peut entraîner plus de chokma. Plus de sagesse. Si je suis jaloux de quelqu'un parce qu'il a beaucoup étudié, si ça m'amène à étudier moi aussi plus, voilà, cette jalousie aura été positive. Mais dès lors qu'il s'agit d'objets, de possessions, de tout, c'est ça, dans la Sereta Dibrot, à la fin, c'est l'envie de tout ce qui appartient à l'autre, tout ça c'est avoir envie simplement, laisser monter en soi cette envie, c'est déjà interdit.
Mais en quoi toucher, qui est peut-être une preuve qu'on a d'ouverture, etc.
Il n'y a pas d'ouverture, c'est pas à vous.
Non, mais c'est pas toucher, c'est toucher pour apprendre.
Je viens de vous expliquer justement. C'est pas du tout, il ne veut pas le prendre, il ne veut rien du tout. Il est curieux, il trouve ça très beau, il trouve ça. Tu ne peux pas le toucher, c'est pas à toi. Ça n'est pas à toi. C'est ça que le Rav Volbe lui a expliqué, lui a enseigné, et maintenant il ne peut plus toucher. On n'a pas, c'est... Bien sûr qu'on se dit, bien sûr, c'est par curiosité, par intérêt, etc., pour apprendre, etc. Tout ça c'est, si tu veux vraiment étudier cet objet, tu peux demander à quelqu'un, est-ce que tu peux me le prêter, on a le droit d'emprunter quelque chose. Mais toucher sans avoir la permission, c'est interdit. C'est pas fait pour être touché. Pas toucher quelque chose, la plus forte raison, prendre en main, quelque chose qui ne nous appartient pas. Enfin, ici, nous, on parle pour l'instant de la notion de chomed, de remda, dont... Je vous répète, Rabbi Vital pense que c'est la source de la sina, de la haine, de la jalousie, de pratiquement toutes les mauvaises midotes qui, elles, dans Pirkei Avot, sont présentées comme elles-mêmes la source de grandes avérotes. Donc ici, c'est ça qu'on veut dire que c'est l'avatouma, c'est que si ces midotes qui sortent l'homme du monde, ce que ça peut vouloir dire, sont... La Touma, c'est quelque chose qu'il faut éliminer, en fait. Alors, leur cause, c'est ce qu'on appelle Av, le père, la source de cette Touma, c'est la Chemda, c'est l'envie, l'envie de s'approprier les choses, de prendre quelque chose qui est à... Enfin, de désirer quelque chose qui n'est pas à soi. Il faudrait, par rapport à ces choses-là, pouvoir se réjouir de ce que l'autre a, quelque chose de très beau, de très utile, de très... Bon, je me réjouis qu'il l'ait, ça n'a rien à voir avec moi. Et ça ne me, ça doit pas générer une envie pour moi. On peut considérer que, puisqu'il a ça, peut-être que j'ai le droit de me dire, bon, ben, c'est très utile, c'est très intelligent, c'est très beau, etc. Je vais aller m'acheter le même, ça on a le droit. Mais avoir envie de ce qui est à l'autre, ce premier moment-là, il est interdit.
Oui. La tentation, elle est depuis que l'homme a été créé.
Oui, c'est ça. Mais de... Si vous voulez, il y a aussi une chose qui est très importante. Dans la tshuva, la plupart du temps, on considère qu'on a fait des grands pas quand on a fait quelque chose de très important, quelque chose... On est impressionné par les choses qui sortent de l'ordinaire. Mais en réalité, ces choses qu'on sait faire, qui sortent de l'ordinaire, etc., leur durée de vie est très très courte. L'idée est venue en un instant, et puis un instant plus tard, elle peut être aussi complètement repartie. Ce qui est plus révélateur de la personnalité de chacun, c'est un enseignement de Rabbi Israël Salanter dont on a peut-être déjà parlé, c'est au fond les choses qu'on fait, le quotidien en vérité, les choses qu'on fait sans y penser même. C'est ça qui est beaucoup plus révélateur de ce que nous sommes que des choses extraordinaires qu'on a réussi à faire une fois, etc., dont on est plutôt fier éventuellement, mais ce qui est important. Et c'est pour ça que, vous avez probablement déjà entendu ça, les Israël Salanter et les gens, les Baalei Moussar, effectivement, ils disent tous que, autour du Yom Kippour, ils prennent ce qu'ils appellent Kabbalah Ktana, c'est-à-dire un mini-engagement. Le mini ne vient pas dire que l'engagement n'est pas sincère, mais c'est un engagement sur une petite chose. Vraiment du genre « small is beautiful », c'est vraiment une petite chose, un petit changement dans la vie. Un petit changement dans le quotidien. Faire un peu, faire mieux quelque chose qu'on a tendance à faire, mais sans y penser. Il y a beaucoup de choses qu'on fait sans y penser, c'est les petites choses. Et justement, c'est dans ce domaine-là qui est en fait révélateur de ce que nous sommes qu'il faut travailler. Donc, s'il faudrait arranger les choses qui sont dans ce quotidien, dans ces petites choses-là, se débrouiller pour arranger un point, un petit point. Mais si... L'Yetzera classique, c'est que quand vous prenez justement une Kabbalah, un engagement de ce genre-là, le Yetzera, il dira, mais c'est rien du tout, c'est pas très important. Ça vaut pas la peine de s'engager, il faut faire quelque chose de plus grand. Mais le plus grand, c'est tranquille, c'est sûr que ça marchera pas. Il faut presque choisir quelque chose qui est tellement petit que ça doit marcher, ça peut pas ne pas marcher. Mais parce que c'est comme ça que ça commence. Il faut commencer. Et ça, c'est aussi un enseignement du Gaon de Vilna. On sait, le Rambam dit que quand on veut justement réparer une mauvaise mida, il faut aller à l'autre extrême. Rambam Maïmonide. Il faut aller à l'autre extrême. Et puis ensuite, on revient, lui c'est sa théorie, la théorie du juste milieu, de la voie royale, etc., qui est la voie centrale. Mais, arrêtez-moi si on a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça? Oui. Pardon? Il y a longtemps, vous avez oublié, moi aussi. Oui. Il n'y a pas de voie centrale. quand on lit le Rambam, on pourrait penser que, ben voilà, il y a deux extrêmes et puis il y a une voie au milieu, mais cette voie-là, elle n'existe pas. Ce que qu'il faut comprendre ici par la voie centrale, c'est une voie dans laquelle on tient les deux bouts en même temps. Et on réfléchit et on tranche au coup par coup. C'est ça la voie centrale.
Est-ce que
du Alors, le, non. Ça, c'est ça le pchat, le vrai pchat dans Rambam. C'est pas... Il n'y a jamais... S'il y avait une voie moyenne, on n'a qu'à la prendre tout de suite. Elle n'est jamais définie. Ce qui est défini, ce sont les extrêmes. En fait, ça veut dire... La voie moyenne, c'est un arbitrage permanent entre les deux extrêmes. Si quelqu'un est... quelqu'un est radin de nature, alors il faut qu'il s'entraîne un petit peu à être un peu plus naturellement généreux, et après il revient au milieu. Oui, c'est quoi le milieu? Le milieu, c'est d'être, dans certains cas, radin, dans certains cas, généreux. Et là, il y a des situations dans lesquelles il faut dépenser beaucoup, et les situations dans lesquelles il ne faut pas dépenser. Il ne faut pas dépenser beaucoup. C'est-à-dire à chaque fois, c'est aussi à chaque fois la position la plus responsabilisante. Il faut trancher. Tu ne peux pas dire une fois pour toutes, voilà, je fais comme ça, je ne regarde ni à gauche ni à droite, je fais comme ça. Ce n'est pas vrai. Suivant la personne que tu as devant toi, il faut peut-être dépenser beaucoup plus que tu ne voudrais dépenser pour l'aider. Puis éventuellement, d'un autre côté, ben non. Peut-être rien ou très peu. Mais à chaque fois, c'est un problème qu'il s'agit de résoudre. C'est-à-dire, j'ai les deux choses dans ma main et j'arbitre entre les deux choses en permanence. C'est ça la voie moyenne. Seulement, dans le processus que Rambam décrit, où il faut d'abord aller à l'autre extrême, c'est là que le Gaon dit, attention, il ne faut pas y aller brusquement. Il faut y aller très progressivement. Bien sûr que le radin qui se mettrait à devenir dépensier, il a l'impression que voilà, j'ai changé. Il a fait une grande chose. Mais ça ne sert à rien du tout. Le naturel va revenir au galop. Il ne va pas être dépensier. D'abord, il pourra peut-être pas, et ce n'est pas une bonne chose en soi, mais c'est une étape par laquelle il faut passer pour pouvoir avoir vraiment, savoir ce que c'est que d'avoir les deux extrêmes dans la main, pour pouvoir vraiment arbitrer entre les deux. Mais le Gaon dit, c'est la règle générale pour le Gaon de Vilna, que on ne peut aller dans tous les domaines où on essaie de travailler sur soi que très progressivement. Et quand on va trop vite, c'est sûr qu'on se casse la figure. Il faut faire un pas. Si vous vous souvenez, celle avec laquelle on a un peu travaillé sur Mesilat Yesharim, le Mesilat Yesharim, le Ramchal, il est construit comme ça. Il y a un chapitre qui dit comment on acquiert un certain niveau. Le chapitre d'après, c'est pas comment on acquiert le niveau suivant. Le chapitre d'après, c'est comment on se maintient et on ne perd pas ce qu'on vient d'acquérir. Comment on acquiert ce niveau-là. Et il faut savoir que à ce niveau-là, il y a toutes sortes de nouveaux problèmes qui se posent et qui, si on ne sait pas comment les résoudre, feront qu'on va tomber. On ne gardera pas ce niveau-là. Donc il n'y a jamais... C'est jamais du continu, si vous voulez. Il y a à chaque fois un palier, un peu comme quelqu'un qui remonterait d'une plongée sous-marine, je veux dire. Alors, s'il remonte brusquement, il risque d'avoir des problèmes. Il est obligé de remonter par palier. Il faut acquérir. Les gens qui font la très haute montagne, ils ont aussi des camps, un camp de base, des camps intermédiaires. Il faut apprendre à respirer à cette altitude, etc. tout. Bien, c'est la même chose dans les midot. On ne peut pas, sous peine d'échec, on ne peut pas aller plus vite que la musique. On est obligé de passer par toutes les étapes, progressivement, et vérifier à chaque fois que l'étape est vraiment acquise, en fait. Ça, c'est l'enseignement du Gaon. La Gemara, elle demande, ok, quand le premier Beth Amikdash a été détruit, la cause, elle était claire. Pourquoi ils ont transgressé les trois fautes fondamentales? Et dans le deuxième Beth Amikdash, la Gemara, elle dit, Ayu yegeim batorah, zeirim bemitzvot, ou aussi bemaasrot, ils avaient plein de bonnes midot. Mais la Gemara dans Yuma, elle dit deux choses. Une chose dont on parle un peu moins. Elle dit « Ayu ohavim et amamon ». Ils aimaient l'argent. « V'sonim elu le'elu sinatrina ». Et ils se haïssaient les uns les autres de cette fameuse haine gratuite. Et donc la Gemara dit, tu vois, sinat chinam, c'est aussi important, aussi destructeur que le meurtre, l'immoralité et l'idolâtrie. La question qui se pose, mais auparavant, tu viens de me dire qu'ils étudiaient la Torah. Dit qu'ils étaient zéhirim be mitzvot. Ils faisaient parfaitement bien les mitzvot. Ils avaient plein de bonnes midot. Comment est-ce qu'on peut arriver à sinat chinam avec tout ce bagage? Et la réponse c'est ohavim et hamamon, ça c'est la chemda. C'est ça ce désir. Avim Tamamon, c'est vouloir avoir, en fait. Alors, bien sûr, il faisait attention au maaser. Et c'est ça. Achemda, c'est le shoresh, c'est la racine. Et c'est ça, c'est Avhatouma. Tout vient de là. Évidemment, si on veut, effectivement, faire une tshuva complète et vraie, alors il faut s'occuper de cette remda, là. Il faut s'occuper de ce désir-là. Le Rav Avraham Ibn Ezra, il écrit sur la Chemda de Aseret HaDibrot, à la fin de Aseret HaDibrot, il dit « Et chumrat isur lo tachmod » la gravité de l'interdit de « tu ne convoiteras pas », c'est comme ça qu'on traduit « ve'ech itachen she'adam lo yachmod davar yafe velibo » alors il dit « mais comment est-ce que c'est possible ?» Comment quelqu'un ne désirerait-il pas dans son cœur quelque chose de beau? Il y a du beau ici, je voudrais l'avoir. Ibn Ezra dit, mais c'est naturel. Et il explique. Il dit, que moi, kafri, shelo yachmod et bat hamelech, ki yoda sheze lo itachem. On doit être à ce moment-là comme le villageois qu'il ne va pas convoiter la fille du roi. Il peut la trouver terriblement belle, mais il ne va pas la convoiter. Il sait très bien que ce n'est pas dans son... c'est pas à lui, c'est pas dans son monde. Alors, kol maskil, dit le Rav Avraham Ibn Ezra, kol maskil tsarir sheyeda, ki mamon, l'argent qu'on a, n'est pas la résultante de la chokhma, de sa sagesse, et de dato, et de ce qu'il est capable de comprendre. Rakasher chalak lo Hashem. C'est la résultante de ce qu'Hachem lui a donné. Si c'est la résultante de ce qu'Hachem lui a donné, alors ce qu'Hachem ne m'a pas donné, ce n'est pas dans mon monde. Par rapport à ça, je suis comme le villageois par rapport à la fille du roi. Cet exercice de, dont on parlait avant sur l'objet, il ne faut pas toucher, c'est la fille du roi, c'est pas mon monde, c'est pas à moi. Il faut se tenir complètement à l'écart de cela. Et bien comprendre que c'est ce qu'Hachem m'a donné, c'est le chez Assal, Icode, Sanki, qu'on dit tous les matins. Hachem m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Encore une fois, je l'ai souvent dit, ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de quelque chose qui puisse être chez l'autre, mais il faut que je le lui demande. Et dans l'hypothèse où il serait le seul à l'avoir et qu'il ne veut pas me le donner, il ne veut pas me le prêter, ça veut dire que je n'en ai pas besoin. Je ne peux pas, dans la bracha qu'on fait, on reconnaît qu'il n'y a rien dont j'ai besoin pour servir Hachem, pour être ce que je dois être, il n'y a rien qu'Hachem ne m'ait donné. Hachem me l'a donné. Il l'a donné par le biais de c'est mon ami qui l'a, il me le prêtera, ou je peux l'obtenir, etc. Mais s'il s'agit de convoiter quelque chose qui est à l'autre, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose dont j'ai besoin.
Dans le cas du Musée des femmes, rappelle-le quand on a dit qu'il faisait la guerre.
Sur les midotes, les raisonnements, ça ne marche pas.
Ça veut dire que c'est le cœur.
Oui, c'est autre chose qu'il doit parler. Les arguments, ils ne tiennent pas la route par rapport à un très fort désir. Les arguments, ils sont. Même si on les reconnaît comme bons, mais. Quand le désir éclate, quand la chose est là, c'est pratiquement comme une vague qui passe par-dessus. Et quand on a transgressé, on s'aperçoit, mais il y avait tous les arguments là. Ils étaient là avant, ils sont là de nouveau. Là. Ou ils étaient pendant que je transgressais. C'est plus fort, c'est extrêmement fort. Ça passe par-dessus. C'est ça qu'on dit quand on dit que ça ne sort du monde. Ces choses-là, les trois midotes dont on a dit qu'elles faisaient sortir l'homme du monde, il sort du monde, c'est-à-dire il n'y a pas de raisonnement, il n'y a rien qui... On est pris, si on est sorti du monde, on est, disons, dans un autre monde. Dans cet autre monde, je suis tout puissant.
C'est une passion.
Vous appelez ça une passion. Si vous voulez, il y a deux choses. Quand vous dites passion, le problème, c'est... On en parlait assez récemment, mais il y a deux types de Yetzirara. Dans les Yetzirara, il y a des choses qui sont indépendantes de nous. Il y a des choses qui sont plus fortes que nous, indépendantes de nous. Là-dessus... La seule chose qu'on est à faire ici, c'est pas de lutter contre ces choses qui ne sont pas de notre ressort, c'est de demander à Hachem de les enlever. Ça fait partie de la prière. La tfila, elle doit s'occuper de ce point, c'est-à-dire demander à Hachem, qui est le seul à pouvoir régler ce problème, de le régler. Donc, ça veut dire, notre tâche, c'est de demander à Hachem de le régler. On a déjà vu plusieurs fois que la tfila, je parle ici de la midad, je me laisserai. D'accord? C'est des situations dans lesquelles nous demandons à Hachem de régler des problèmes. Je ne suis pas capable de faire en sorte que les récoltes de cette année soient bonnes. Néanmoins, je vais demander à Hachem de bénir cette année pour que les récoltes soient bonnes. Mais ça m'incombe. Ça, c'est ma tâche. Ma tâche n'est pas de travailler là-dessus, je peux pas. Et d'un autre, il y a une deuxième chose, qui sont des problèmes que je peux régler, mais pour lesquels j'ai besoin de l'aide d'Hachem. Parce qu'on fait rien dans ce monde si on n'a pas l'aide d'Hachem. Alors la tfila aussi ici, elle est de, je fais les choses et je demande à Hachem de m'aider. Mais à ce moment-là, je n'ai pas le droit, ça ne sert à rien de demander à Hachem de régler un problème que je peux régler complètement avec son aide. Si Hachem, il est, on dit dans la première bracha, il est Melech, Ozer, Umoshia, Umagen. C'est un roi qui est Ozer, c'est-à-dire il aide, c'est-à-dire je fais une partie du travail. C'est quelqu'un qui est en train de se noyer. Bon, mais il arrive à nager, mais il n'est pas assez fort. Alors quelqu'un va l'aider. On va lui donner une bouée, etc., pour que ce soit plus facile. On va l'aider un peu. Ça, c'est Ozer. Moshia, c'est quand la personne est en train de se noyer. Il ne peut plus rien faire. Il faut le sauver. Et Magen, c'est le bouclier qui empêche que les flèches arrivent, que les femmes arrivent. Là, c'est de l'avoir vu aller se baigner, lui dire, toi, si tu rentres dans l'eau, tu vas te noyer, alors reste sur la berge. C'est empêcher que le problème naisse. Alors, on demande, Hachem fait trois choses. Ozer, Moshia, Magen. Vous remarquerez que ce que nous attendons dans la Geoula, on attend qu'Hachem soit une Yeshua, Geoula, Yeshua. Donc ça veut dire qu'il y a une partie qui nous incombe, en fait. Ou bien non. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on a dit dans Moshia? On a dit qu'il y a quelque chose qui, c'est pas de nos fêtes. C'est pas Ozer. Donc la Yeshua, la Geoula, d'une certaine manière, elle dépend que d'Hachem. Sauf qu'elle dépend de notre prière. C'est pour ça que nous prions dans la Shemoneh Esrei qu'Hachem envoie la Geoula. Parce que c'est notre contribution, en quelque sorte. Je ne peux rien faire pour amener la Geoula. Ça se saurait. Si Chazal avait pensé que en faisant tel ou tel geste, ou tel et tel, je sais pas quoi, ça mènerait à la Geoula, il nous aurait dit, voilà, tu fais ça, ça amène la Geoula. Hachem t'aidera, mais ça amène la Geoula. Non, c'est pas comme ça. C'est Moshia. Hachem nous sauve. On peut pas le faire. Mais par contre, on est en charge de demander à ce que ça vienne. De demander à Hachem de le faire. On a vu des choses, hein. Par exemple, on a vu que nous étions en charge d'empêcher, si on peut parler comme ça, d'empêcher Hachem de faire un Chilul Hachem. C'est ce que Moshe Rabbeinu nous a dit à Hachem. Quand Hachem a dit qu'il allait détruire les Bnei Israël après le veau d'or, alors Moshe a dit, ouais, c'est super, c'est une très bonne idée. Comme ça, les Égyptiens diront que c'est parce que tu étais incapable de faire entrer les Bnei Israël en Eretz Israël que tu les as tués dans le désert. Ce sera un Chilul Hachem. Hachem s'est incliné. Plusieurs fois, Moshe Rabbeinu a utilisé cet argument-là. L'argument du Chilul Hachem. C'est un scandale. Et c'est pour ça. D'une certaine manière, d'après, je vous ai déjà expliqué à Abraham de Vologine comment il explique comment on peut prier pour qu'un malade guérisse. C'est au titre du Chilul Hashem. Ça souffre dans ton monde et c'est un scandale. Parce que c'est que les choses apparaissent comme si tu n'étais pas capable d'avoir créé un monde dans lequel on ne souffre pas. Ah, mais celui qui souffre, le malade, c'est un message qu'on lui a envoyé. Et c'est Hachem qui lui a envoyé le message. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Nous, on va dire à Hachem, il y a un Chilul Hashem. Alors, on n'est pas obligé de lui dire ce qu'il faut faire, mais ce qu'on lui dit, c'est ok, le message, bien sûr, tu dois l'envoyer, mais envoie-le d'une autre manière, d'une façon qui n'est pas Chilul Hashem. C'est la fameuse histoire du bloc de pierre, vous vous souvenez, on casse le bloc en tout petits cailloux. Il n'y a pas de Chilul Hashem sur les tout petits cailloux. Un énorme bloc, c'est un Chilul Hashem. Donc là, nous, humains, sommes les hommes, et c'est nous qui sommes en charge d'empêcher Hachem, si on peut parler comme ça, de faire un Chilul Hashem. De la même manière ici aussi. Il y a des choses, c'est nous qui sommes en charge de le faire. C'est la répartition du travail, en quelque sorte. Il y a une alliance entre Hachem et nous. Et notre part de l'alliance, c'est ça. C'est de demander à Hachem de faire les choses que nous sommes incapables de faire, donc de les éliminer, les choses négatives, et de demander à Hachem de nous aider dans ce que nous pensons et nous devons faire, et que nous pouvons réussir que s'il nous aide. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on prie. Oui, sans doute. La remda, en fait, c'est très fort. Maintenant, étant donné que c'est dans les commandements, donc c'est clairement une mitzvah comme telle, donc concrètement, il y a une partie qui relève de nos capacités, en fait. Sinon, ça ne serait pas dans les Maserat HaDibrot. On ne peut pas dire j'y suis pour rien. Mais c'est la question d'Ibn Ezra. Ibn Ezra, il dit mais comment c'est possible? On y répond. Pardon? Justement, non, on n'y est pas. On ne peut pas dire je n'y suis pour rien parce que c'est une mitzvah. Et si c'est une mitzvah, ça m'incombe. Et ce n'est pas seulement une mitzvah de prière. Et il demande, que je vous ai lu. Ibn Ezra, il demande mais comment c'est possible? Qu'on ne désire pas quelque chose de beau, par exemple. Il dit oui, c'est possible. Parce qu'on doit on doit s'installer dans la position du villageois par rapport à la princesse. C'est pas dans mon monde. Et c'est ça le travail qui nous est demandé. Non, 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 c'est moi qui dois me raconter que c'est pas... C'est, ouais. Ici, c'est moi qui dois faire ce travail pour comprendre que c'est pas dans mon monde. Le villageois, il n'a aucun travail à faire. C'est naturel. Il sait que, sauf dans les contes, ou dans certains contes, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas lui qui aura la princesse.
C'est pas dans un monde de possession, mais ce qui est beau, il m'est donné de le voir. Il ne faut pas que je pense qu'il accaparait, mais il a un sens aussi à mes yeux, puisque je rencontre le beau, c'est que c'est un sens pour moi. Je vois quelque chose de beau.
On n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit d'apprécier le beau.
Voilà, donc je peux. C'est aussi. C'est donc jouir de ce beau. J'ai ce droit de jouir. Mais ce que je dois donc travailler, c'est bien ça, c'est vouloir me l'approprier.
Oui. Jalouser l'autre, enfin, désirer l'obtenir pour moi. Oui. Comme ces cinglés qui achètent un tableau et qui le mettent dans le coffre à la banque. Leurs héritiers le trouveront. Oui, on les envier au sens de prendre modèle. De toute manière, là-bas, c'est pas, on ne peut pas dire que je vais les lui enlever. là, c'est dans les choses matérielles, alors on peut les enlever, si elles sont ici, elles ne sont pas là-bas, je veux dire, à la limite. Si on a envie d'une litho qui est chez l'autre, et qui existe à Taïwan en 100 000 exemplaires, on va t'en acheter une, je veux dire, c'est pas nécessaire de... Le problème, c'est quand ça n'existe pas. Il a quelque chose, ou elle a quelque chose, qui me fait envie. Alors, la Gemara, elle est claire. Hein, c'est une maison, on peut dire, ben, achète-toi une maison aussi. Non, mais cette maison-là, elle vit d'une certaine manière, et c'est cette maison-là que j'envie, en fait. Que, c'est pas... Eh bien, je crois que quand on envie une maison, c'est pas seulement les murs, c'est que c'est tout ce qu'on projette éventuellement, c'est avec des murs comme ceux-là, on s'imagine une certaine vie possible. Donc ça, c'est un tout. En quoi? Dévie en quoi? Ça peut dévier vers être meilleur que l'autre, pas parce que je veux devenir meilleur, mais parce que simplement être dominer l'autre, ça, oui, ça peut dévier de ce côté-là. Bon, c'est possible que la terminologie qui est utilisée là-bas, c'est Kinat Sofrim. Sofrim, c'est le nom qu'on donne aux Chachamim. On dit qu'ils sont Sofrim parce qu'ils connaissent exactement le nombre de lettres dans la Torah et ils savent quand un mot est écrit Chaser ou Malé, etc. Donc ils comptent. Les Sofrim, c'est pas simplement seulement les copistes. Mais c'est aussi un nom qu'on donne de façon générale aux Chachamim parce qu'ils ont une maîtrise complète du texte. Ils comptent les lettres. Donc c'est déjà à un certain niveau. Bon. Alors, ça ne veut pas dire, on a vu, on peut aussi imaginer les gens qui étudient la Torah et tout et qui ont des mauvaises midotes. On a vu ça. Mais disons, si tu dis que ça suppose déjà une certaine. À un certain niveau, peut-être, il faut peut-être ajouter que ça suppose un certain niveau. Je ne sais pas du tout si la jalousie primaire va s'appliquer vraiment, si elle est vraiment primaire, est-ce qu'elle s'appliquera à ce domaine-là? La jalousie primaire, elle s'appliquera plutôt à des choses matérielles, non? La jalousie primaire... Tu appelles primaire, donc.
J'ai déjà entendu des enfants
pourquoi. À la limite, j'ai l'impression que tant qu'on en est au pourquoi, et qu'on a à qui poser ce pourquoi, on peut répondre. En général, quand il s'agit d'un pourquoi de ce genre-là, il faut toujours répondre avec un pourquoi en deux mots. L'enfant est où? Souvent, nous posons la question du pourquoi en un mot, et la réponse est pourquoi en deux mots. À ce moment-là, on peut répondre, oui, il a plus de sagesse dans tel et tel domaine, et toi dans un autre domaine. C'est pas... Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de millions d'exemplaires de même personnage, sinon il ne nous aurait pas fait tous différents. Ça fait partie des Nissim dont on parle. La Gemara, elle dit que quand un homme fabrique un moule, ou quand il va, je sais pas, quand on va battre monnaie, etc., on va faire des millions de pièces avec toujours la même tête, c'est la même. D'accord, beaucoup, il a le moule d'Adam Harishon, en quelque sorte, et il fabrique des gens qui sont tous différents. Malgré que c'est tous des êtres humains, ils sont néanmoins tous différents. On est tous différents. Donc il faut expliquer, c'est très important qu'un enfant comprenne que, effectivement, il n'est peut-être pas bon dans tel et tel domaine. Bon, peut-être il peut s'améliorer, peut-être qu'il y a un déclic, mais que, bon, d'accord, ça veut dire que tu dois faire autre chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quand j'étais plus jeune, je disais toujours que ma carrière en basket, elle était un peu limitée, sauf s'ils baissent les panneaux, mais bon, les paniers, mais tout, c'est... Même avec beaucoup de bonne volonté... C'était autre chose. On est obligé, il y a des choses qui... Si elle ne veut pas faire tchouva, ben elle est perdue, quoi. Mais pourquoi elle ne pourrait pas faire tchouva? Mais non, c'est le problème de l'homme. Ça, on avait déjà parlé. C'est le problème de l'être humain, c'est l'orgueil. C'est l'homme qui se prend pour Dieu, quoi. C'est ça l'orgueil. Hein? Oui, c'est possible, mais la Gemara, elle dit que c'est. Elle fait l'éloge de gens comme David Ameller par opposition à Nebuchadnezzar, etc. Moi, elle dit, c'est Hachem qui parle, qui dit j'ai fait de Nebuchadnezzar un empereur, et il s'en est enorgueilli. Au départ, il savait bien que les victoires qu'il a eues n'étaient pas des victoires ordinaires, c'était pas dû au sort des armes, comme on dit. Il a bien remarqué que c'était autre chose. Mais après, ça lui a tourné la tête et il a oublié. Et il est devenu orgueilleux. Et David, auquel j'ai donné la royauté, dit Hachem, plus je lui en ai donné, plus il a travaillé sur son orgueil pour travailler sur l'humilité, en fait. Non, c'est pas juste que l'orgueil, c'est donc le contraire de la mitzvah, de la mida de Anava, et Anava c'est, de même que l'orgueil c'est la pire des choses, là, Anava c'est la meilleure des midotes. Anava c'est l'humilité, et on doit travailler là-dessus. De Chemda. Parce que, bon, c'est... Là, en l'occurrence, c'est Prem Vital qui parlait de la Chemda. Dans la Gemara, c'est marqué que la Mida la plus... La Mida positive la plus élevée qui soit, c'est Anava. Et que le problème de l'orgueil, c'est le problème de l'humain. C'est pour ça que le Shir Shelyom, le chant qu'on dit le vendredi, le jour de la création de l'homme, c'est Hachem Malach Geout, c'est revêtu d'orgueil. L'orgueil, c'est le vêtement d'Hachem. Hachem dit, l'orgueilleux et moi, on n'a pas la place on n'a pas de place dans le même monde. Mais on doit travailler sur l'orgueil. On ne peut pas dire, oui, je suis orgueilleux, point barre. Il faut se casser un peu, quoi. Alors évidemment, il y a des épreuves dans la vie qui vont effectivement obliger quelqu'un à en rabattre de son orgueil. Mais bon, il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu d'épreuves et qui normalement devraient apprendre quand même, mais ça fait partie de l'interdit de s'enorgueillir, quoi. En fait, le Maharal, il explique que, sur ce que disent Hazal, la qualité de Ezehu Ashir à sa mère Bechelko, qui est-ce qui est vraiment à la fois on pourrait, ça dépend comment on va le lire avec, quelqu'un, qui est-ce qui est vraiment riche, celui qui est en joie, il est parfaitement heureux, joyeux avec sa part. Et la qualité de celui qui effectivement a sa mère Bechelko, c'est comme le dit le texte lui-même, c'est-à-dire il se réjouit de la part qu'il a reçue d'Hachem. Chelko, c'est un chelek, c'est la part reçue. Ça veut dire chacun reçoit une part, chacun reçoit une fonction particulière dans le monde. C'est-à-dire une fonction dans le service d'Hachem. C'est sa fonction personnelle. Et tout ça, ça s'inscrit évidemment dans le travail général du clan Israël pour Hachem. Il faut que chacun, effectivement, fasse sa part. Et il faut impérativement que chacun se... Pourquoi est-ce qu'il faut être joyeux de sa part ? Mais voilà, c'est mon job. On peut faire son job avec une mine triste. On n'est pas obligé d'être joyeux. Pourquoi il faut être sa mère de Chelko ? On a vu déjà que sans la simcha, il n'y a pas véritablement d'investissement dans ce qu'on fait. On ne s'investit pas vraiment. Or, la Torah, elle veut justement cet investissement. On veut que ce soit, qu'on y mette du sien dans la part de service d'Hachem qui nous est échu. C'est la part que j'ai reçue. Et elle est tout à fait adéquate à ma personnalité. C'est pour moi cette part-là. Elle tient compte de ce que je suis. C'est Hachem qui me l'a donné en même temps qu'il m'a fait et qu'il me donne, comme on a dit, Kol Tzorki, j'ai tout ce qu'il faut pour jouer le rôle que je dois jouer dans l'économie générale de la Avoda du clan Israël pour Hachem. Et si on n'est pas... D'abord, il y a une joie du seul fait que, comme on dit, je ne suis rien, mais je suis ce rien auquel Hachem a donné des mitzvot. Et toute ma grandeur, si on veut parler comme ça, elle vient de ce que Hachem m'a parlé, en fait. Hachem m'a confié un travail. J'ai quelque chose à faire que personne ne peut faire aussi bien que moi. C'est ça qui a de quoi, effectivement, réjouir. Et la joie, elle est une condition sine qua non pour bien faire la chose. Voilà, c'est ça qu'il faut garder peut-être pour Yom Kippour, c'est-à-dire prendre une petite chose pour améliorer dans le quotidien. Premièrement, c'est dans le quotidien qu'on se révèle. Dans les choses auxquelles on n'accorde pas beaucoup d'importance, il faut peut-être commencer à leur accorder de l'importance en sachant que tout ce que je fais est apprécié par Hachem, si on peut parler comme ça. Tout ce que je fais, c'est quand je fais ce que je dois faire, je joue un rôle dans le service d'Hachem. Imaginez. Quelqu'un qui dédie sa vie, en quelque sorte, à cette avodat Hachem. Avodat pour Hachem.
Pardon? Je ne comprends pas ce petit rien sans que ce soit anecdotique.
J'ai pas dit petit, j'ai dit je suis ce rien. C'est vous qui avez ajouté petit. J'ai dit qu'il était rien.
Non,
pas petit rien.
Ah,
c'est petite chose qu'il faut prendre.
Oui.
Ah. Ça veut dire que on peut décider que un exemple.
J'ai écouté un
cours. Pardon ?
J'ai écouté un cours de Rabier.
Oui.
Par exemple, je
prends
de lire le Dakar sur le livre.
Voilà. Par exemple. Si vous... Quelqu'un qui le sait par cœur, ou qui normalement le dit par cœur, mais. On ne le dit pas de la même manière par cœur, sauf si vraiment on s'arrête. Et peut-être décider que le Birkat Amazon qui entend normal va prendre 1 minute et demie ou 2 minutes. Voilà. Il me prendra peut-être 3 minutes. Pour ça, c'est ça ce petit rien. C'est pas grand chose. Pour prendre cet exemple-là, mais. On peut aussi décider d'essayer de raisonner, de laisser raisonner en soi certaines choses. C'est-à-dire que, une chose qu'on dit comme ça, qu'est-ce que ça. On peut très bien décider que pendant une semaine, par exemple, une des brachot, je vais la dire lentement et je vais essayer de réfléchir sur ce que je suis en train de dire. Quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette... On sait, on va le dire très vite, si on sait, ça va. On va s'arrêter. Une semaine là-dessus, une semaine sur la prochaine, une semaine. Des toutes petites choses. Voilà.